en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Si depuis la fin du XVIIIe siècle, l'Institut de France a pour vocation première de réunir et de faire travailler ensemble les élites scientifiques, littéraires et artistiques de la nation et permettre ainsi aux pouvoirs publics de solliciter leurs conseils et au plus grand nombre de partager leur savoir, si l'Institut a toujours encouragé les initiatives, récompensé le talent en attribuant des bourses, en mettant des sujets au concours ou en décernant des prix, s'il a manifesté son adhésion aux idées d'humanité et de progrès par des actions de secours aux familles et aux défavorisés, l'Institut de France, tout en conservant ses actions traditionnelles, prend un visage nouveau avec un mécénat résolument tourné vers l'avenir. Pour nous dévoiler l'aspect nouveau des actions de mécénat menées par l'Institut de France, j'ai le grand plaisir de recevoir le chancelier de l'Institut, M. Gabriel de Breuil, de l'Académie française, également membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et qui, élu chancelier le 29 novembre 2005, exerce cette fonction depuis le 1er janvier 2006. Monsieur le chancelier, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Un mot tout d'abord, et justement sur le mot chancelier, a-t-il toujours existé un chancelier, l'Institut ?
Eh bien non.
Non.
Non, le premier chancelier apparaît en 1952.
Ah mais c'est tout récent.
Ce qui est une époque toute récente.
Mais oui.
Et il n'y a eu que 7 chanceliers jusqu'à présent. Donc c'est l'appellation que l'on a choisie pour désigner le responsable exécutif de l'Institut de France, dont nous allons parler. Un mot, cependant, chancelier, ça veut dire qu'il garde des sceaux, et il y a le sceau de l'Institut, en effet, qui est un appareil solennel que l'on manipule. Avec rarement d'ailleurs, mais il faut deux personnes pour le manipuler. Et c'est, voilà. Donc le chancelier garde le sceau de l'Institut. Il y a eu 7 chanceliers de l'Institut et je les énumère.
Bien
car
sûr.
Ils ont joué chacun un rôle important. Le premier a été François-Albert Buisson. Le second, André-François Poncet, grand ambassadeur, membre de l'Académie française. Le troisième, Jacques Rueff, aussi membre de l'Académie française. Le quatrième, Édouard Bonnefous, qui est resté chancelier de l'Institut de France pendant 16 ans et qui a marqué profondément la maison de son emprunt. Puis lui a succédé Marcel Landowski, le compositeur de musique. Depuis 1999, Pierre Messmer est devenu chancelier, ancien Premier ministre, et lui aussi marqué fortement l'institution.
Et vous êtes le septième.
Pierre Messmer a souhaité ne pas avoir ses fonctions renouvelées à la fin de 2005 et depuis le 1er janvier 2006, je suis le septième.
C'est un chiffre symbolique.
Voilà.
Et comment se fait l'élection d'un chancelier puisque vous venez d'être élu ?
Alors, le chancelier est élu parmi les membres de l'organisme qui joue le rôle de conseil d'administration de l'Institut de France. Son nom est Commission administrative centrale et il est élu pour 3 ans. C'est un scrutin, il n'y a pas de candidature, il n'y a pas de campagne. Les choses se font de manière tout à fait naturelle entre les membres de l'Institut. Font partie de la Commission administrative centrale des délégués de chacune des académies.
Et les secrétaires perpétuels ?
Et les secrétaires perpétuels, bien sûr. Le secrétaire perpétuel et 2 délégués de chacune des académies.
Alors, d'un commun accord, monsieur le chancelier, nous avons choisi de ne pas refaire ici, dans cette émission, l'histoire de l'Institut de France, puisque nos auditeurs peuvent trouver dans notre médiathèque plusieurs émissions consacrées à cette question. Mais si vous le voulez bien, nous pourrions profiter de votre présence dans notre studio pour nous pencher justement sur la vie de l'Institut et sur son organisation, avant d'évoquer le mécénat et ce nouveau visage du mécénat. Alors, comment s'organise justement l'articulation entre les 5 académies qui composent l'Institut de France et l'Institut de France?
Oui, volontiers, parce que en plus c'est une question qui n'est pas tellement apparente et tellement simple. Elle s'explique par l'histoire. Il y avait les académies sous l'Ancien Régime. La Convention a supprimé les académies. Et sur le rapport de l'abbé Grégoire, qui s'intéressait aux questions d'instruction, la Convention a créé l'Institut de France, qui lui-même était divisé en 4 classes. Déjà, le vocabulaire a changé.
Voilà.
Et les classes regroupaient des académiciens. Et cela a duré pendant toute la Révolution et l'Empire. Et c'est en 1816 que Louis XVIII a rétabli les académies. On le comprend, les anciennes académies retrouvent...
Avec le mot « académie ».
Avec le mot « académie ». Mais il n'a pas supprimé l'Institut de France. Et donc, il a établi cette organisation traditionnelle, qui maintenant est tout à fait entrée dans les usages et dans les esprits, qui est que l'Institut de France regroupe 5 académies. Alors, je les énumère dans l'ordre d'ancienneté.
Dans l'ordre d'ancienneté, voilà.
L'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et la cadette, l'Académie des sciences morales et politiques. La cadette parce qu'elle a été fondée simplement sous la Révolution, supprimée par Napoléon et rétablie en 1832 par Guizot. Alors voilà, comment s'organise la vie de ces 5 académies et de l'Institut de France ? L'Institut regroupe. L'Institut est le cadre général qui abrite, disons, les 5 académies, les 5 grandes académies. Alors, d'un certain point de vue, on peut dire que l'apparence et le cadre général est important pour l'opinion, dans l'image de l'opinion. Ainsi, les académiciens s'appellent membres de l'Institut.
L'Institut, oui. Ils disent pas de l'Institut de France, d'ailleurs.
Non,
je
membres de l'Institut.
De l'Institut tout court, il n'y en a qu'un.
Et il n'y en a qu'un. Et voilà, je rappelle que Bonaparte, par exemple, aimait se parer du titre de membre de l'Institut.
Il était à l'Académie des sciences.
Il était à l'Académie des sciences comme artilleur, comme officier d'artillerie. L'uniforme est commun à tous les académiciens et c'est l'uniforme de l'Institut, de membre de l'Institut. C'est un uniforme hérité de l'Empire, brodé, une redingote brodée, avec une cravate blanche. L'épée est l'épée de membre de l'Institut. Et c'est le même cérémonial pour l'ensemble des membres. Un certain nombre de choses comme le processus d'élection, libre totalement, sur candidature déposée, voilà, du secrétariat de chaque académie. Tout cela est commun à toutes les académies. Le rôle très subtil entre le président et le vice-président de chaque académie et le secrétaire perpétuel, qui est perpétuel et qui, bien que secrétaire, a en réalité le pouvoir, le président changeant tous les ans, ou même plus souvent pour l'Académie française, ce rôle est commun à toutes les académies. Donc il y a une famille.
Il y a un esprit, en tout cas.
Il y a un esprit, il y a une famille. Mais ça ne suffit pas à caractériser la manière dont vivent l'Institut de France et les 5 académies. D'un autre côté, la richesse intellectuelle, les travaux académiques sont dans les académies. Il n'y a pas de membre de l'Institut qui ne soit pas membre d'une académie. Et c'est en tant que membre d'une académie qu'un membre de l'Institut possède un prestige, une expertise dans le domaine qui est le sien, une réputation, des travaux, membre du Parlement des savants, comme cela a été dit sous la Révolution. Donc la richesse intellectuelle est dans les académies. L'indépendance est celle des académies. L'indépendance pour les travaux académiques, c'est évident. Chaque académie est totalement libre d'organiser ses travaux comme elle le fait et en son sein de manière très démocratique. En ce sens, les académies sont des modèles de vie démocratique. Ce sont des groupes d'égaux et les fonctions ne sont déléguées qu'à temps et ne rompent pas l'égalité entre les membres des académies. Et donc le prestige aussi qui provient du prestige des membres, de l'importance des travaux, de la solennité des réunions et du décorum, tout cela est dans les académies. Alors, maintenant, l'Institut est un peu plus qu'un cadre.
Oui, je m'en doute. Oui.
Il a des missions très importantes. Il représente l'ensemble vis-à-vis des pouvoirs publics. Et aussi vis-à-vis de l'opinion en général, nous l'avons vu en disant que membre de l'Institut, c'est le titre que portent tous les académiciens. l'Institut de France a un certain nombre de missions, par exemple pour les règlements généraux qui gouvernent la vie des académies et de l'Institut. L'Institut de France est par exemple, c'est lui qui gère le palais du Quai de Conti, le Collège des Quatre Nations, avec ses grands espaces, cette belle architecture de la coupole, et le long de la Seine, les deux bras ouverts face au Palais du Louvre, ce bel endroit de Paris, c'est l'Institut de France. L'Institut gère les deux grandes bibliothèques, la bibliothèque de l'Institut, immense bibliothèque de travail, mais très riche et très intéressante.
Trésors, oui.
Et puis la bibliothèque Mazarine, fondée par le cardinal Mazarin dans les lieux, qui n'a jamais bougé et qui est une bibliothèque, alors elle, de recherche et d'histoire, plutôt du XVIIe siècle. Mais voilà, ces deux grandes bibliothèques sont de l'Institut. Les services communs sont de l'Institut, évidemment. Les services financiers, informatiques, de téléphone, de sécurité, tout ça, ben, comme on peut l'imaginer, c'est l'Institut de France qui exerce. Ces services sont mutualisés, d'une certaine manière, entre tous les habitants du Quai de Conti. Donc, c'est l'Institut qui s'en occupe. Alors, ça tendrait à donner de l'Institut une image un peu administrative, ou un peu, mais ce n'est pas le cas. Parce que l'Institut a également reçu de très grandes fondations, dont nous parlerons tout à l'heure, et qu'il gère, avec le concours des académiciens, bien entendu. Mais ce sont des possessions de l'Institut, ainsi Chantilly...
On va en parler, en effet, dans un instant.
D'autre part, l'Institut a reçu de grandes fondations récentes, modernes, contemporaines, des fondations de capitaux mobiliers qui lui permettent d'avoir une action de mécénat très importante. Donc ce n'est pas seulement un organisme administratif, c'est un organisme qui intervient. Une loi récente a défini le statut de l'Institut de France et des académies. Cette loi a ceci de particulier, qu'elle établit l'indépendance de l'ensemble, double indépendance, indépendance interne de chacune des académies entre elles et vis-à-vis de l'Institut, et de l'Institut vis-à-vis des académies, bien entendu, et indépendance externe. C'est-à-dire que l'ensemble formé par l'Institut et les académies est garanti d'une indépendance complète vis-à-vis du pouvoir gouvernemental, des interventions des administrations et même de contrôle. La loi dit que, je la résume en une phrase, l'Institut de France et les académies qui le composent sont des personnes morales de droit public qui s'administrent librement sous la protection du président de la République et sous le seul contrôle de la Cour des comptes. Voilà, tout est dit, c'est un statut d'indépendance.
Mais en tant que chancelier, justement, j'ai envie de vous demander si vous avez à l'extérieur de l'Institut, après nous avoir expliqué ce fonctionnement interne, aussi beaucoup de représentativité, de liens avec les pouvoirs publics, avec le président de la République, sans doute.
Oui, bien sûr. Oui, oui, le rôle de représentation du chancelier est important, c'est une partie en effet de son rôle. Il assiste aux cérémonies publiques, ainsi le 14 juillet, le matin, assisterait
au défilé traditionnel, oui.
Et à la réception à l'Élysée, ainsi le 8 mai, ainsi, enfin, ça fait partie des...
C'est un membre de la vie nationale.
De la vie nationale, de même les réceptions dans les ambassades à l'occasion des fêtes nationales, les réceptions dans certains ministères, pas tous, heureusement, certains ministères, et dans le protocole de la République, vous savez qu'il est établi par un texte très minutieux qui met que le chancelier de l'Institut de France est un numéro parmi les personnages de l'État, le 24e.
C'est bien. Voilà.
Et les secrétaires perpétuels des académies viennent immédiatement après, chacun dans l'ordre de la création de l'académie, etc. Voilà. Donc un rôle de représentation, si on veut, mais un rôle aussi de coordination de l'ensemble, n'est-ce pas ? Un rôle de rendre la vie harmonieuse de l'ensemble des académies et de l'Institut.
Un beau modèle donc à la fois d'indépendance et de vie démocratique communautaire. Donc c'est un
voilà.
Vraiment, on peut résumer cela comme ça. Donc je rappelle à nos auditeurs que nous sommes dans notre studio avec Monsieur le chancelier de l'Institut de France, Monsieur Gabriel de Breuil. Nous allons marquer une courte pause, nous retrouver dans un instant pour évoquer avec lui le nouveau mécénat de l'Institut de France, un mécénat résolument tourné vers l'avenir.
Chaque lundi, les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques se réunissent dans la salle des séances de l'Institut de France. Ils écoutent une communication sur un thème choisi.
Pour les séances de l'année 2006, le président de l'Académie, Monsieur André Damien, a choisi le thème de la justice.
Sur Canal Académie en séance, vous permettra d'entendre, entre autres intervenants, Henri Amouroux sur la justice du peuple en 1944.
Maître Jacques Vergès, la passion de défendre.
La justice, thème de réflexion de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2006.
C'est chaque semaine dans En séance sur Canal Académie.
Retour dans notre studio de Canal Académie, où nous avons le plaisir de recevoir M. Gabriel de Breuil, chancelier de l'Institut, pour évoquer justement ce nouveau mécénat, un mécénat tourné vers l'avenir, un mécénat qui est le nouveau visage de l'Institut de France, peut-on dire.
Oui, nouveau mécénat parce qu'il y a un mécénat ancien, disons-le.
C'est oui, une traditionnelle. Il faut peut-être en parler un peu tout de même.
On peut dire que ce mécénat ancien, le premier, c'est une multitude de petites fondations qui consistaient à décerner des prix. Alors des prix d'une certaine importance ou d'une moindre importance, mais ça existe depuis l'origine. Et des prix pour des travaux littéraires, intellectuels, artistiques, scientifiques, ou des prix tout simplement charitables, humanitaires. C'était un rôle décerné aux académies au XVIIe siècle et que les académies ont toujours exercé depuis. Alors, il y a un annuaire des prix de l'Institut qui est un gros volume.
Tellement il y en a.
Oui, il y en a beaucoup.
Beaucoup de donateurs, beaucoup de générosité.
Il y a beaucoup de donateurs
finalement.
Depuis 300 ans, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de gens qui ont donné. Alors, même lorsque la fondation elle-même a disparu par l'érosion monétaire, souvent on conserve le souvenir, parce que ça a existé. Et alors, quelquefois, même le prix est décerné. Et il est décerné, il représente une médaille. Mais après tout, de recevoir une médaille de l'Institut ou d'une académie, c'est une chose importante. Donc c'est une activité relativement importante. Il faut que les jurys se réunissent, il faut qu'il y ait des livres candidats ou des auteurs ou des artistes candidats. Donc cette activité de prix, la première vague du mécénat, est relativement importante et nous occupe beaucoup. Alors, la deuxième vague du mécénat, c'est le grand mécénat culturel. Ce sont les grandes fondations qui sont nées au XIXe siècle. L'origine, c'est qu'il s'est trouvé que le duc d'Aumale a voulu établir la permanence de Chantilly, dont il avait hérité. Il n'avait pas d'héritier lui-même, et il a fait un testament disant, une belle phrase, « Voulant garder à la France les trésors de Chantilly, j'en fais le legs à l'Institut de France. »
Et ces trésors sont de vrais trésors.
Et ce sont des trésors
Ils sont un bonheur à aller visiter.
Le duc d'Aumale était un immense collectionneur, il avait des moyens pratiquement illimités. Il les a consacrés à réunir là un des plus beaux musées, un musée enthousiasmant dans tous les domaines, peinture, dessin, livres, objets mobiliers, porcelaine, meubles, etc. Ça, c'est le grand mécénat fondation-musée. Il y en a plusieurs. Il y a le musée Jacquemart-André et d'ailleurs...
À Paris, oui.
À Paris et à Chaly.
Et à Chaly.
Madame Nelly Jacquemart, qui a épousé le grand financier Édouard André, avait dans sa jeunesse fréquenté, au fond, elle était protégée de la personne qui était propriétaire de Chaly. C'était un peintre et elle a fréquenté Chantilly, qui était à l'époque une demeure princière et fastueuse. Elle a été très frappée de la démarche du duc d'Aumale. Et lorsque elle a été mariée à Édouard André, elle a constitué un grand musée à Paris, le musée Jacquemart-André, qui est un superbe musée,
superbe
une collection
musée
magnifique
avec, absolument.
D'objets d'art de grande grande qualité, grande recherche. Et lorsque son mari est mort, elle a racheté le domaine de Chaali qu'elle avait connu dans son enfance.
Ancienne abbaye royale.
Ancienne abbaye royale superbe où Saint-Louis résidait, où il y a des restes magnifiques. Et elle a constitué là, avec acharnement, avec une générosité extraordinaire, un grand musée, un second grand musée, de manière presque un peu compulsive, car elle voyageait beaucoup et dans ses voyages, elle achetait énormément des objets de toutes sortes et la plupart du temps de très très beaux objets.
Absolument.
Et donc elle a fondé aussi à Chaali un musée tout à fait remarquable. Alors il y en a d'autres de moindre importance, mais ce sont de lourdes responsabilités. Le château de Langeais est tout à fait important et superbe, il appartient à l'Institut de France.
Alors, quand vous dites qu'il appartient à l'Institut de France, ça veut dire qu'il y a un membre de l'Institut qui le gère, qui s'en occupe.
Alors c'est le cas de Langeais, oui, Monsieur Jean Favier est le conservateur de Langeais. C'est le cas de Jacques Marandré, c'est Monsieur Jean-Pierre Bablon qui est le conservateur. Pour Chantilly, c'est plus compliqué car le duc d'Aumale lui-même a établi un collège de 3 conservateurs dont le président est obligatoirement un membre de l'Académie française et c'est monsieur Alain Decaux qui est le président du collège des conservateurs de Chantilly. Donc c'est le système, n'est-ce pas? Le chancelier de l'Institut délègue ou par statut il est établi un conservateur des grands domaines de l'Institut.
Voilà, c'est pas une gestion au sens propre du mot. Et c'est
non.
une propriété non plus, véritablement. Ou c'est une propriété?
C'est une propriété.
C'est une propriété. Ça a été une donation à part entière.
C'est une propriété. La propriété de Chantilly est tout à fait considérable. Mm. Des milliers d'hectares. La propriété de Chaali est extrêmement importante aussi.
Absolument.
Oui.
Nos auditeurs trouveront d'ailleurs, je me permets de le signaler, de nouvelles émissions sur Chantilly, puisque la Galerie des Batailles vient d'être rénovée. Nous avons interviewé la conservatrice, Madame Garnier. Donc, ces émissions sont disponibles dans notre médiathèque. Et puis, sur Chaali, nous ferons aussi, parce qu'il y aura la rénovation des fresques du Prématis au mois de septembre. Donc, nous ferons aussi des émissions sur ce sujet. Donc, Monsieur le Chancelier, il y a ce mécénat, j'allais dire, d'innombrables dons et legs dont vous avez parlé, puis le mécénat historique et prestigieux. Mais y a-t-il un nouveau mécénat ?
Il y a un nouveau mécénat d'une importance considérable et qui a prolongé les missions de l'Institut et leur a donné une nouvelle nature. C'est une question pas uniquement d'ordre de grandeur, c'est une question de nature. Et il faut s'en expliquer un peu. L'Institut de France a recueilli depuis, disons, une dizaine d'années, peut-être une quinzaine, quelques grandes fondations mobilière, c'est-à-dire de capitaux mobiliers, décidés par des mécènes privés ou par des entreprises.
Oui.
Et qui ont choisi l'Institut de France pour abriter leur démarche, qui est une démarche généreuse de mécénat extrêmement importante, qui est généralement l'accomplissement d'un projet d'une vie, ou pour une entreprise, le désir de se manifester, d'acquérir une image dans
l'utilité,
le domaine du mécénat, et d'abriter l'Institut pour gérer cette démarche. Alors, il s'agit en réalité de la remise à l'Institut de la propriété de capitaux mobiliers très importants, avec une mission, une fonction, on appelle ça des charges. Et la naissance de telles fondations est sanctionnée par un décret en Conseil d'État parce que nous trouvons, on a toujours trouvé, l'Institut de France considère qu'il est bon que des démarches aussi importantes soient consacrées, reçoivent une consécration à l'égard de tous, n'est-ce pas, pour justifier que l'Institut de France se voit chargé par des intentions privées, car cela demeure des démarches privées et des fonds privés, d'origine privée, que l'Institut de France soit chargé par des démarches privées d'exercer des missions de mécénat largement entendu, c'est-à-dire en réalité des missions de recherche, des missions d'intervention dans les domaines scientifiques, de médecine, biologique, dans les domaines culturels, artistiques, et bien entendu dans le domaine des lettres, de la littérature. Nous tenons à cette consécration parce que le Conseil d'État sanctionne en quelque sorte l'objectif d'intérêt général qui est poursuivi à cette occasion. Il n'y a donc nul arrangement particulier dans ces grandes fondations. Il y a une démarche entièrement ouverte et approuvée, sanctionnée par le Conseil d'État.
Et respectueuse aussi de la volonté des donateurs.
Alors pourquoi les donateurs s'adressent-ils à l'Institut de France pour ces grandes donations ? La démarche naît de la manière suivante. Il y a d'abord la volonté de rendre permanente soit un patrimoine, soit un héritage, soit des sommes accumulées par une activité économique, de rendre permanente, c'est-à-dire permanente et visible. Il y a une image de chaque fondation qui est une chose importante. Et c'est une démarche bien connue. Mais ça n'aboutit pas nécessairement à créer une fondation à l'Institut de France.
Oui, ça pourrait
être
ailleurs.
Ça peut être une fondation autonome. Alors, l'Institut de France apporte l'indépendance, qui est un élément essentiel. L'indépendance et la permanence. C'est la démarche du duc d'Aumale, remettre à la France l'héritage que j'ai reçu de ma famille, je le lègue à l'Institut de France. Voilà, c'est une assimilation dont nous sommes fiers.
C'est une démarche un peu patriotique,
qui nous fait honneur, qui fait honneur à l'Institut et qui montre que l'Institut de France peut être le réceptacle de démarches généreuses dans un objectif d'intérêt public. Et indépendante des administrations et de l'État, il faut le dire.
Voilà.
Car c'est un élément souvent important dans la démarche des mécènes. C'est qu'ils ne souhaitent pas que leurs fonds aillent accroître les fonds immenses du budget de l'État parce que...
Oui, c'est deux choses différentes, en effet. C'est deux circuits différents.
C'est une indépendance vis-à-vis des administrations et du budget de l'État. Il y a le prestige. Les fondateurs trouvent un prestige d'être abrités par l'Institut de France. Il y a une attention particulière que l'Institut de France accorde aux mécènes qui lui font à la fois l'honneur et le geste d'abriter à l'Institut leur fondation, leur démarche. Nous avons des liens qui se nouent avec les fondateurs. Et ces liens sont d'une nature particulière. Ces liens sont, je crois que les fondateurs apprécient le fait d'être admis, inclus dans la famille de l'Institut d'une certaine manière. Et puis alors, il y a la permanence au-delà des relations entre les personnes, c'est-à-dire qu'une fondation abritée par l'Institut est garantie contre toute...
Oui, ça va durer un temps certain.
...difficulté qui se produirait. Et donc, l'arrangement... est complexe, évidemment, mais psychologiquement puissant pour que ces fondations viennent à l'Institut de France. Leur domaine, il est très varié, mais enfin, il couvre toute la gamme du mécénat, des sciences dures, les plus précises, aux sciences biologiques et la médecine, bien entendu, il y en a beaucoup dans le domaine de la médecine, mais aussi dans le domaine humanitaire. Il se crée encore aujourd'hui des fondations dans le domaine humanitaire, purement humanitaire, et enfin, bien entendu, dans le domaine de la culture, des lettres et des arts, qui est le domaine traditionnel.
Bien sûr.
Alors, citons quelques-unes
de
ces fondations.
Quelques exemples. Vous ne pourrez pas les citer toutes, parce qu'il y en a énormément. Mais au moins que nous ayons quelques exemples.
Alors, je voudrais citer les fondations qui décernent de très grands prix, des prix d'une extrême importance. Et en citant l'importance, je veux dire, on parle toujours du prix Nobel, n'est-ce pas ? Eh bien, les fondations de l'Institut de France, certaines, décernent des prix qui sont supérieurs en montant au prix Nobel. Et c'est une chose que l'on ne dit pas assez, oui, suffisamment, mais qui commence à être connue tout de même. Il faut dire que ces fondations ne sont pas si anciennes que cela. Et c'est une réalité économique et culturelle tout à fait importante. Alors, je voudrais citer la fondation Louis D. Louis D, c'est Louis D majuscule point. Cela traduit la modestie, la discrétion du mécène
qui veut rester,
qui ne souhaite pas que son nom soit figure au titre de la fondation. Donc c'est la fondation Louis D, et cette fondation décerne chaque année deux prix, l'un scientifique, l'autre humanitaire ou culturel, une année sur deux, une année humanitaire, l'autre année culturelle. Chacun de ces deux prix annuels est d'un montant de 750 000 euros.
Ah oui, c'est une somme énorme.
Ce qui est
oui,
une somme considérable, ce qui est une fondation à soi seule, n'est-ce pas ? Et donc ce n'est pas un prix remis comme ça, et lauréat s'en va avec le chèque dans sa poche. Non, c'est une fondation qui crée des liens entre le lauréat, l'organisation lauréate et la Fondation Louis D et l'Institut de France. Et je vais vous donner ceux qui ont reçu le prix et qui ont conservé des liens particuliers avec l'Institut de France. Ça a été par exemple la Fédération internationale des professeurs de français.
Avec laquelle nous sommes en lien, bien sûr.
Qui joue un rôle essentiel, c'est un réseau de 100 000 professeurs de français dans le monde, qui sont peut-être le meilleur vecteur de l'enseignement du français. C'est des étrangers, professeurs de français, langue étrangère, auprès d'étrangers, n'est-ce pas ? Donc c'est vraiment la diffusion du français à son point le plus vaste de diffusion, tout à fait intéressant. Il y a l'Université Saint-Joseph de Beyrouth qui a reçu le prix pour créer une chaire d'université d'anthropologie interculturelle de langue française à Beyrouth. Très important,
très important,
très intéressant. Et cette chaire est créée grâce au prix de la Fondation Louis D. Il y a eu le Comité international de la Croix-Rouge qui a... Et alors, cette année, ce prix culturel a été décerné aux Alliances françaises de Pologne. Les Alliances françaises de Pologne sont en train de renaître après une longue période d'hivernage, malheureusement, mais renaissent avec beaucoup de vitalité.
Tant mieux.
Et elles s'installent, elles établissent entre elles des réseaux Internet et des réseaux de communication, des échanges de conférenciers. Elles constituent des bibliothèques et nous leur avons décerné le prix de 750 000 euros qui leur est arrivé comme ça. Je dois vous dire qu'en Pologne, ça a été un conte de Noël.
Ben oui, c'est un miracle, c'est sûr. C'est un vrai miracle.
Un miracle et la joie de tous ceux qui militent dans les Alliances françaises de Pologne a été extrêmement satisfaisante à voir. Voilà le type même d'intervention des fondations. Alors, la Fondation Louis D donne également chaque année un prix de la même importance dans le domaine scientifique. Alors là, nous abordons les prix scientifiques de l'Institut de France. Ils sont nombreux, ils sont très importants. C'est dans des domaines de pointe. Le libellé du domaine n'est
lui-même
pas toujours compréhensible. Le dernier, c'était « Science et application aux temps ultra-courts ». Alors, les temps ultra-courts, on ne peut même pas concevoir ce que c'est, n'est-ce pas ? C'est 15 puissance moins 5 secondes, incompréhensible. Mais enfin, c'est une réalité de la physique moderne et c'est tout à fait important. Alors, il y a d'autres fondations qui donnent des prix un peu plus compréhensibles. Par exemple, la fondation Simone et Chino Del Duca, fondation extrêmement importante. Madame Del Duca a laissé une fondation et a fait de l'Institut son légataire universel.
Elle était correspondante, je crois,
de l'Académie des Beaux-Arts, mécène elle-même, grande mécène. Et à sa mort, l'Institut est devenu propriétaire de la fondation et de sa fortune personnelle. C'est une fondation peut-être la plus importante de l'Institut qui a des actions dans tous les domaines, mais notamment dans le domaine scientifique qui décerne un très grand prix. Et alors, cette année, c'était le domaine de la biologie cellulaire et moléculaire. Voilà. Un autre grand prix très important, c'est la fondation Le Foulon de Lalande qui décerne chaque année un prix extrêmement important. Cette année, c'était dans le domaine cardiovasculaire et c'est un prix de 500 000 euros, n'est-ce pas ?
Oui, oui, oui.
tout à fait considérable.
Alors, on a envie de vous demander tout de suite, mais comment sont choisis les lauréats? Parce que pour donner des sommes pareilles, je suppose qu'il y a une réflexion très,
voilà, alors,
très antérieure.
J'aimerais citer encore le prix Énergie, et il faudrait en citer bien d'autres, bien entendu. Mais enfin, peut-être c'est difficile de les citer tous. La Fondation Blanc-Ménil, je voudrais citer la Fondation Mérieux, Rodolphe Mérieux, qui est une très grande fondation de cet Institut Mérieux de Lyon, qui décerne chaque année alors de multiples actions et prix, mais notamment un grand prix scientifique très important, etc. Je regrette de ne pas pouvoir les citer tous.
Mais nous ferons des émissions, je peux m'engager
chacune
pour chacune de ces grandes fondations, absolument.
Alors, vous posez la vraie question. Le choix des lauréats est extrêmement important et suppose une recherche et un travail en amont qui a dû être organisé. Alors, chaque fondation a son règlement et est établi selon la volonté du fondateur. Lorsque le fondateur existe encore, eh bien, il y a un règlement approuvé par les instances de l'Institut de France, et quelquefois, ce règlement est très développé. Ainsi, la fondation Louis D, dont je parlais tout à l'heure, pour son prix scientifique, a établi qu'une année sur deux, ce serait un prix international. Mmh. Et les choses se passent de la manière suivante. Tout d'abord, le conseil de la fondation détermine le domaine de compétition. Précis, très précis. Et ce domaine est communiqué à toutes les instances internationales, scientifiques internationales. Puis, 10 académies des sciences étrangères désignent chacune un spécialiste du domaine considéré qui sera le correspondant de l'Académie des sciences,
les
10
pays,
principales
oui.
Académies des sciences dans le monde. Il a quelques mois pour, étant donné le domaine considéré, rechercher quelles sont les équipes scientifiques les plus compétentes qui peuvent concourir. Au bout d'un certain temps, le calendrier est très strict. Chacune des 10 académies établit une liste de plusieurs lauréats, 5 ou 6. Et ces listes sont réunies à Paris, et l'ensemble de ces listes est examiné par les délégués des 10 académies, plus l'Académie des sciences française de Paris. Et de cette liste de peut-être 40 ou 50 lauréats, on passe à une liste de entre 5 et 10, ce qui n'est pas un travail facile, n'est-ce pas ? Après cela, l'Académie des sciences de Paris exerce un nouveau filtre et de la liste de 5 établit une liste généralement de 3 et avec un ordre de priorité. Alors l'Académie des sciences vote de manière très méticuleuse et consciencieuse, quelquefois c'est un vote qui n'est pas facile, et il y a une liste de 3 avec un ordre de priorité. Et finalement, le lauréat déterminé par le conseil d'administration de la fondation, qui vote, lui, sur cette proposition, et le plus souvent, le conseil entérine la proposition de l'Académie des sciences qui a été faite avec beaucoup de soin. Voilà ce travail considérable.
On est impressionné par cette organisation considérable, mais qui est nécessaire justement pour que l'argent confié à l'Institut soit utilisé au mieux.
C'est une garantie, d'abord, en effet, pour la bonne utilisation de l'argent. C'est une garantie aussi auprès des acteurs internationaux qui sont très attentifs à ces questions et qui voient que les choses se déroulent de manière très ouverte, très consciencieuse, très rigoureuse, et que ce prix est en train de devenir l'un des grands prix scientifiques dans le monde.
Oui, absolument,
on commence à le savoir très bien.
En tout cas, dans les milieux concernés, ça doit se savoir, en effet.
Alors, chacune des fondations a un système, pas toujours aussi perfectionné que celui-là, mais a un système de sélection qui suppose une grande expertise de la part des membres des académies. C'est là que les académiciens, la richesse intellectuelle, n'est-ce pas, la richesse des fondateurs vient à l'Institut, mais la richesse intellectuelle concourt
bien sûr
à la sélection des candidats, à leur évaluation, à leur finalement sélection. Et c'est toujours le conseil de la fondation qui effectue le choix final, le conseil de la fondation qui est toujours présidé par le chancelier de l'Institut, qui généralement est paritaire, une partie représentant les fondateurs et une autre partie représentant des membres de l'Institut désignés par leurs académies, élus par leurs académies, donc de manière assez démocratique.
Donc ces grands prix ont véritablement non seulement une dimension internationale, mais aussi un caractère très novateur. Parce que vous disiez que justement, c'était pas seulement pour couronner des travaux qui ont eu lieu, mais aussi pour encourager des recherches, c'est-à-dire pour le futur en quelque
voilà,
sorte.
Voilà, c'est ça l'aspect nouveau. En quoi cette activité est-elle si importante et si prisée, n'est-ce pas, si remarquée? C'est que les grands prix de l'Institut ne viennent pas combler des lacunes du budget des grands organismes de recherche ou simplement verser des frais de fonctionnement, des subventions budgétaires à des organismes de recherche. Non, la sélection, elle est sur des thèmes pour des équipes, des laboratoires, une œuvre, un projet. Et donc, c'est un projet qui est couronné, non pas une récompense pour quelque chose déjà accompli.
Oui, ça c'est très différent.
Ce qui est le cas souvent des prix littéraires.
Bien sûr, là il faut bien juger sur pièce.
On couronne un auteur pour un livre. Mais pour les grands prix scientifiques, c'est un projet. La présentation du projet, l'intérêt, la renommée de l'équipe du laboratoire qui le propose interviennent pour une grande part. Et alors ce projet, c'est en soi une fondation, n'est-ce pas? C'est, étant donné l'importance de ces prix, cela veut dire que l'Institut de France fonde dans tel laboratoire, telle université, tel organisme de recherche français ou étranger, une petite fondation qui a pour mission de permettre de faire. Nous remettons le pouvoir de faire. Et le pouvoir de faire qui n'existerait pas sans nous parce que nous choisissons des types d'actions qui ne sont pas encore considérées comme classiques et développées par l'État ou les ministères ou les instances habituelles. Donc nous permettons de naître un certain nombre de types d'interventions. Et ce pouvoir de faire, la plupart du temps, c'est un pouvoir d'innover. Et alors ça, c'est très intéressant parce que nous nous rendons compte que quelques années plus tard, eh bien, ce pouvoir d'innover que nous avons remis à une équipe, il est devenu quelque chose de considérable.
Et, ça, c'est...
et qui a fait progresser, voilà, qui fait progresser la science, le savoir, mais aussi souvent la médecine et la manière de répondre aux défis de la médecine moderne.
C'est un pari, en quelque sorte, tout à fait enthousiasmant pour l'Institut de France. En 2005 et en 2006, il y a eu cette innovation qui est une symbolique innovation, c'est-à-dire que la cérémonie de ces grands prix s'est déroulée sous la coupole. Or, traditionnellement, la coupole était réservée aux séances académiques, aux séances solennelles, aux rentrées des académies. Est-ce que c'est symboliquement important que ça se passe sous la coupole maintenant?
C'est extrêmement important, c'est une nouveauté. Ça veut dire que l'Institut vit, et se développe, se transforme. Et il y a assez peu de séances qui se déroulent sous la coupole, en habit d'académicien, avec un décorum qui a toujours frappé ceux qui y assistent. Les séances, c'était les séances solennelles de rentrée de chaque académie, une fois l'an, et puis les séances de réception de l'Académie française, ou bien de l'Académie des Beaux-Arts. Et alors, chaque séance de réception de l'Académie française donne lieu à une cérémonie très recherchée et importante. Et voilà que, depuis l'année dernière et cette année, apparaît une nouvelle séance solennelle qui est la remise des grands prix. Et elle est d'une nature différente, parce que dans les séances habituelles, c'est les académies qui s'expriment, qui délivrent leur message. Et comme vous le savez, les discours académiques ne sont pas destinés formellement au public, à ceux qui sont là, mais sont destinés aux académiciens. Et c'est la raison pour laquelle, pendant longtemps, on a dit, on les a commencés par « messieurs ». Messieurs, c'était messieurs,
les académiciens,
les confrères.
Voilà.
Et puis, comme les femmes sont venues, on a dit, et j'ai été le premier dans mon discours de réception à l'Académie française...
À devoir dire madame.
À devoir, non. Alors, j'avais trouvé la formule qui, depuis, est observée, pardon. C'est mesdames et messieurs de l'Académie.
Voilà.
Et ça veut dire qu'on s'adresse aux académiciens. Alors ça, c'est l'Académie s'exprimant. Et évidemment, c'est publié, c'est connu de tout le monde. Mais enfin, c'était l'usage. Dans cette cérémonie des Grands Prix... Ce sont les fondations, et donc les mécènes, d'une certaine manière, qui s'expriment par leurs gestes, et ils sont honorés par la cérémonie de remise, et ce sont les lauréats qui sont là et qui remercient.
Qui sont présentés par des académiciens.
Et qui sont présentés chaque grand prix.
Une sorte de parrain.
Chaque grand prix est présenté par l'académicien qui connaît le mieux la question.
Souvent le secrétaire perpétuel,
j'ai remarqué.
Souvent
le secrétaire perpétuel.
Oui.
Et qui expose quels sont les travaux qui ont été couronnés et comment est composée la réputation de l'équipe qui reçoit les travaux. Alors c'est une cérémonie assez particulière, nouvelle, qui présente un grand intérêt, une grande diversité, parce que sur chaque cas, il y a matière à réflexion profonde, car ces travaux scientifiques ou biologiques sont toujours
d'un extrême intérêt. Oui, posent des questions humaines, j'allais dire, voilà, forcément, éthique, métaphysique, bien sûr.
Et donc il s'est créé depuis 2 ans une tradition que nous perpétuerons, je crois que l'année prochaine ça aura lieu le 13 juin.
Donc vous l'annoncez officiellement, est-ce que ce sera sous la même forme
Sous la même forme, absolument.
Voilà, le 13 juin 2007.
Content de voir se prolonger une tradition qui désormais fait partie des traditions de l'Institut de France.
Monsieur le chancelier, avant de terminer cette émission, est-ce que vous me permettez d'adresser 2 questions à monsieur De Breuil, à monsieur Gabriel De Breuil? Vous présidez la commission générale de terminologie et de néologie. Vous avez un grand attachement à la langue française, tout le monde le sait. Est-ce que vous pourrez maintenir cette fonction entre chancelier de l'Institut de France et président de la commission de terminologie?
Oh, c'est une question cruelle que vous posez là, oui. J'ai beaucoup consacré de travaux et de réflexions à la terminologie de la langue française. Il s'agit de proposer les équivalents français de notions, de réalités qui naissent souvent en Amérique et qui reçoivent au départ un nom en anglais, en anglo-américain. Et alors, pour que la langue française conserve sa vocation universelle, il est essentiel de donner un équivalent français, de nommer la réalité, les fonctions. Alors, ça existe dans tous les domaines de vocabulaire, l'informatique, l'internet, mais aussi la publicité, le sport. Enfin,
c'est comme ça que l'on doit dire un courriel, par exemple.
Par exemple.
Entre autres,
plutôt que les déformations bizarres de email, qui devient mail, on ne sait pas pourquoi, ou quelquefois mail, enfin, bon, dans le terme, c'est courriel, ça veut très bien dire, c'est courrier électronique.
Courrier électronique, absolument. Ouais. Monsieur De Breuil, on vous doit plusieurs ouvrages sur le 19e siècle, vous avez une passion pour ce siècle, vous avez publié sur l'orléanisme, sur l'histoire de cette fameuse revue des deux mondes, qui est née en 1829, vous avez consacré des biographies à Joseph-Alexandre de Ségur, à Madame de Genlis, la gouvernante des enfants d'Orléans, à Guizot, à Mahon. Pourra-t-on lire prochainement un nouveau livre sur le 19e siècle de Gabriel De Breuil?
Écoutez, je trouve que votre seconde question est encore plus cruelle que la première.
Parce qu'elle montre que vous n'avez pas le temps de le rédiger.
Mais la réponse, alors, d'enthousiasme, ça serait de dire oui, je l'espère et oui, j'essaye de faire que ce soit possible bientôt.
Alors, nous formons des vœux pour que cela aboutisse. Monsieur le chancelier, il me reste à vous remercier de nous avoir éclairés sur l'organisation de l'Institut de France et sur son mécénat. Je voudrais préciser à nos auditeurs que vous trouverez sur le site de Canal Académie un lien direct vers le site de l'Institut de France. C'est un site qui, d'ailleurs, est en rénovation, monsieur le chancelier. C'est un site qui prend, lui aussi, un nouveau visage. C'est symbolique aussi.
C'est une des premières occupation que j'ai eue en prenant ces fonctions, c'est que j'ai regardé les sites, je les trouvais un peu vieillots. Et je me suis aperçu, je le savais d'ailleurs, que de créer un site internet, ce n'est pas une activité tout à fait naturelle, c'est vraiment une question de spécialiste, de professionnel, et que le site de l'Institut devait être modernisé, simplifié et rendu plus commode. Alors, il y a une étude en cours qui va essayer de donner l'image la plus avenante aux nombreux internautes, très nombreux, qui consultent les sites de l'Institut et des académies. Et alors, ce que nous avons dit au début trouve sa traduction ici. L'important, c'est les liens entre le site de l'Institut, les sites des académies, les sites des fondations et les sites de très nombreux autres organismes, par exemple Chantilly, le domaine de Chantilly a un site, le musée
bien
de Chantilly
sûr,
a un site,
sûr.
Etc. Et donc, il y a de très nombreux liens qui montrent l'espèce de réseau d'ensemble que représente l'Institut de France.
Alors, effectivement, sur Chantilly, dont vous avez beaucoup parlé, je l'ai dit, nous avons, à Canal Académie, réalisé plusieurs émissions et les liens sont établis avec le site, sur l'abbaye de Chalice aussi, sur le musée de Jacques Marandré, que nos auditeurs peuvent aussi écouter et télécharger gratuitement la cérémonie de remise des Grands Prix 2006, dont le discours d'ouverture prononcé par Monsieur le chancelier de Breuil le 14 juin permet d'être écouté dans son intégralité, comme si vous étiez invité sous la coupole. Alors il me reste à souhaiter à nos auditeurs bonne écoute sur Canal Académie, à vous remercier, Monsieur le chancelier, de votre présence ici. Merci à tous de votre attention.
Merci à vous.